Vivre et non seulement professer. Le vivre et non seulement le professer. Ou comment ne pas être un grand diseux et un petit faiseux. Je crois que une des fiertés que nous pouvons tirer de notre assemblée, c'est que nous sommes fervents connaisseurs de la parole de Dieu. Nous sommes peut-être même des spécialistes des autres doctrines. Nous sommes des spécialistes de l'enseignement de notre Dieu. Mais qu'en est-il de notre vie ? Est-ce que nous vivons ces enseignements ? Qu'en est-il de la réalité de notre vie en Christ ? Christ nous invite, c'est vrai, à connaître ces enseignements dans notre intellect, mais il nous invite surtout à les vivre et à les connaître dans nos corps et dans notre esprit. Je crois que les choses de Dieu sont très simples, malgré ce qu'on a pu en faire. Il faut que la vie dans l'esprit soit simple pour que tout homme puisse accéder au salut. Elle ne peut être une chose pour laquelle il faille lire un grand nombre de livres ou avoir fait des études. Il faut que la vie en Christ puisse être comprise par tout le monde et de ce fait, être simple. Quand nous entrons dans le mode de vie de Dieu, nous n'entrons pas dans quelque chose de bizarre ou de nouveau. C'est souvent ce que les gens qui ne connaissent pas ça ont l'impression. C'est quelque chose de bizarre ou de nouveau. Quelque chose d'étranger, quelque chose qui n'est pas naturel. Mais en fait, la vie en Jésus-Christ, c'est ce qu'il y a de plus naturel. C'est en fait la manière naturelle de se comporter pour un être humain. La vie de l'esprit est ce que Dieu avait prévu pour ses créatures, ce qu'il avait prévu pour tous les hommes depuis le commencement, en harmonie avec toutes les lois naturelles de l'univers. Cette vie est très normale. Mais nous vivons un tel décalage avec ce que le monde nous fait gober, que nous inversons injustement les vérités et les réalités du naturel. On a l'impression que notre vie va à contresens de ce qui est naturel, alors que c'est l'inverse. Dieu a prévu pour nous cette vie en abondance en Jésus-Christ. Ce n'est pas une bizarrerie. Alors, souvenez-vous d'Abraham, qu'on appelle le père des croyants, n'est-ce pas ? C'est le modèle, en tout cas c'est le mien, de ceux qui vivent dans la foi. Or, quelle était sa relation avec Dieu ? On va essayer de s'en souvenir. Eh bien, c'était une relation normale. Tout ce qu'il y a de plus normal, et ce n'était surtout pas une religion. Elle était très naturelle, très simple. Quand Abraham communiait avec Dieu, il disait des choses du genre, alors, c'est pas biblique, hein, mais j'essaye d'imaginer, « Écoute Dieu, tu ne m'as pas donné de fils, pourtant tu me l'as promis, et mon héritier maintenant va être quelqu'un qui est né esclave dans ma maison. » Alors, Dieu, s'il te plaît, il faudrait que tu y fasses quelque chose. Il y a plein d'autres exemples avec Abraham. Souvenez-vous quand il négocie avec Dieu pour les villes de Sodome et Gomorre. Seigneur, s'il y a 50 justes, est-ce que tu sauves cette ville ? Dieu dit oui. Et puis Abraham, il négocie le tarif jusqu'au moment où il dit à Dieu s'il y a quelques justes. Et Dieu accepte. Il a une relation normale avec Dieu. C'était un peu plus naturel pour Abraham de parler avec Dieu de cette manière, parce que leur relation était une relation d'amitié. Et d'ailleurs, on appelle Abraham l'ami de Dieu. L'Écriture précise cela. En fait, dans sa relation avec Dieu, la seule chose qui pourrait être considérée comme compliquée, c'était la construction d'autels pour offrir des sacrifices. Et pourtant, c'était pour lui quelque chose de spontané et de naturel. D'ailleurs, quand il voulait construire un autel, il avait l'habitude de le faire non pas à un endroit particulier, il le faisait chez lui, juste à l'extérieur de chez lui, dans sa cour. Il avait l'habitude de parler avec Dieu n'importe où. Et quand il voulait témoigner d'une reconnaissance particulière envers Dieu, il le faisait dans sa cour. Il n'avait pas besoin d'un endroit précis. Ça, c'était la relation que Dieu et qu'Abraham avaient ensemble. Et pour nous, le besoin même de construire des autels a disparu. Parce que vous le savez, Jésus a offert sa vie pour nous, une fois pour toutes en sacrifice. La croix a éliminé ce qu'il y avait encore d'un peu compliqué dans la relation que l'homme peut avoir avec Dieu. Il n'y a plus du tout de complications pour ceux qui, aujourd'hui, vivent dans l'esprit. Nous vivons la vie la plus naturelle, la plus simple qui soit. Alors, je vois déjà certaines personnes qui me disent « Oui, mais enfin, t'as oublié quand même ce qui se passe après. » Et c'est vrai que quelques centaines d'années après Abraham, vint la loi. Pour ceux qui se sont farcis le Deutéronome, le Lévitique, vous pouvez effectivement vous opposer à ce que je dis. Cette loi, ce fut le fondement de la religion juive. Et la loi nous paraît très compliquée, effectivement, quand on la lit. Et nous nous demandons comment un Dieu de simplicité pourrait être à l'origine d'un système si compliqué. Mais caché sous les complications apparentes de ces lois, de cette loi, il y avait en réalité un mode de vie très simple. C'est juste que c'était décliné pour des gens pour qui ce n'était pas naturel de vivre comme cela. En fait, les seules vraies complications avaient trait au système, encore une fois, des sacrifices et aussi du temple. Mais nous, aujourd'hui, nous pouvons complètement oublier tout cela parce que Jésus est lui-même le sacrifice et que notre corps et que l'Église est le temple du Saint-Esprit, nous dit la parole. Alors, considérons, si vous le voulez bien, si vous ne vous êtes pas encore endormi, l'enseignement de la loi, et c'est le passage qui se situe sur vos petits papiers. Ça se situe en Deutéronome 6, verset 6 et suivant. Alors, vous n'avez qu'une toute petite partie sur les papiers. La simplicité dans son essence ressort dans ce passage. Dieu explique cela, écoutez bien. « Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main, et elles seront comme des frontaux entre les yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Voilà quelque chose qui avait en effet un effet sur toute la vie, sur toute une vie entière. Quelque chose qui concernait leur vie de tous les jours. Cela avait trait à leur foyer, à leur travail, à leur voyage, et même ce qu'ils faisaient dans leur chambre à coucher. « Tu inculqueras mes voies à tes fils, dit Dieu. » Et quand est-ce qu'on doit inculquer ces voies à nos enfants ? À l'école du dimanche ? Non. Le dimanche matin à 10h30, non plus. Ou pas seulement, je devrais dire, Marcus. Non, écoutez, quand vous êtes chez vous, quand vous partez en voyage, quand vous vous couchez le soir et quand vous vous levez le matin, autrement dit, tout le temps. Voyez-vous, même sous la loi, Dieu avait en tête un mode de vie et non une religion. L'intention de Dieu était que sa voie soit leur vie. Il devait enseigner ces choses à leurs enfants. Et qui était chargé de cet enseignement ? Le père et la mère, et non le moniteur de l'école du dimanche. Ce n'était pas une affaire compliquée avec des classes, des livres, des enseignements, ou un bonhomme qui parle devant un pupitre. Non, cela devait faire partie de la vie normale. Quand devait-il enseigner continuellement ? Non pas seulement le dimanche matin, mais tout le temps. Aujourd'hui, notre éducation d'école du dimanche est sans doute très nécessaire. Nos enseignements du dimanche matin sont sans doute très nécessaires. Nos formations dans des instituts de formation sont probablement très nécessaires. Parce que les enfants, parce que nos collègues de travail, parce que les membres de notre assemblée ne reçoivent pas chez eux ou dans l'église ce qu'ils devraient y recevoir. Puisqu'ils sont mal nourris, nous avons besoin d'un hôpital où les mettre le dimanche matin ou le mardi soir. Il faut les placer sous oxygène où un médecin spécialisé leur donne un traitement de vitamines bibliques. Mais c'est parce que, dans leur vie, ils ne sont pas nourris. On envoie les gens dans les instituts bibliques et les facultés de théologie pour les former avec une instruction chrétienne. Et ces établissements aussi ressemblent à des hôpitaux. Si les gens étaient tous en bonne santé et ne tombaient jamais malades, nous n'aurions pas besoin d'hôpitaux, de médecins, d'universités ou étudier comment guérir les maladies. Nos systèmes sont tous axés sur comment guérir telle ou telle maladie spirituelle, parce que nos foyers familiaux, nos foyers d'église ne fonctionnent pas comme ils le devraient. Nous enseignons à nos enfants comment se servir d'un couteau et d'une fourchette, mais nous ne leur enseignons pas la vie chrétienne. Et je n'entends pas par là l'enseignement d'un système religieux, je parle bien d'une vie. Je veux dire qu'ils puissent voir comment vivre la vie chrétienne en observant nos vies. Et c'est la même chose pour nos collègues de travail ou pour nos frères et sœurs. C'est un problème parce que dans beaucoup de familles, les parents ne conduisent pas, ils professent. C'est un problème parce que dans beaucoup d'églises, les responsables et les membres ne conduisent pas, ne vivent pas, ils professent seulement. Conduire et vivre, et non seulement professer. Enseigner, ce n'est pas donner des leçons, mais vivre la vie. Alors là, vous êtes en train de vous dire, il est mal placé, il est devant nous en train de nous enseigner. Mais comprenez bien, c'est utile, mais professer c'est utile, mais il faut vivre et non seulement professer. Les enfants doivent aller, je vais prendre cet exemple-là, à l'école du dimanche pour apprendre à ne pas se battre. Pourquoi ? Parce qu'à la maison, papa et maman se battent. Papa vole les crayons au bureau et les ramène à la maison pour s'en servir. Alors, les enfants doivent aller à l'école du dimanche pour y apprendre qu'on ne doit pas voler. Papa s'énerve quand quelqu'un lui fait une queue de poisson ou même qu'il le gêne sur la voie publique. Donc les enfants doivent aller à l'école du dimanche pour apprendre à ne pas s'irriter. Papa et maman s'irritent et se fâchent. Alors où les enfants vont apprendre qu'ils ne doivent pas se laisser irriter et se fâcher ? À l'école du dimanche. C'est fait pour ça, non ? Et on pourrait transposer cela au moment qu'on vit en ce moment, n'est-ce pas ? Avec nous, les membres. Cela engendre un autre problème aussi, parce qu'il se peut que le moniteur ou la personne qui est en train de vous parler en ce moment soit irritable pendant la semaine, mais pas le dimanche. Nous sommes tellement nombreux à être pris dans un système religieux en oubliant de vivre la vie en abondance que Christ nous prévoit et nous promet. Nombreux à être pris dans ce système religieux qui n'est pas vrai, qui n'est pas authentique, qui n'est pas dans le naturel de Dieu. C'est un jeu, comme quand on est enfant et qu'on joue à l'église. Les réunions de l'église ne sont pas la partie la plus importante de nos vies spirituelles. Elles en sont un élément essentiel, mais ce n'est pas le plus important. Ce sont les jours entre les réunions qui sont importants, au bureau, à l'école, à la maison. Et ce n'est pas les 2 heures par semaine où nous nous retrouvons dans ce bâtiment. Quand le Seigneur vous voit arriver au culte avec la Bible sous le bras, il dit aux anges, c'est une image, hein, « Allons, on va pouvoir se reposer un peu, ils vont se comporter comme il le faut pendant 2 heures, alors profitez-en, piquez un petit somme, mais alors attention, rechargez bien les batteries parce que 12h15 arrive très vite. Soyez vigilants dès la sortie du culte. « Bonjour mon frère !» s'exclame un frère lorsque vous arrivez. « Que le Seigneur te bénisse, pouvez-vous répondre, vêtu de vos habits du dimanche. » Et votre frère vous dit « Oh là là, qu'est-ce que t'es spirituel, toi. Et ta famille aussi. Mais la question qui se pose vraiment, c'est qu'est-ce qui se passe chez vous, derrière les portes fermées, dans l'intimité de vos foyers et de vos vies. Ne pensez pas que vous allez leurrer Dieu simplement parce que vous vous tenez par la main quand vous vous asseyez ensemble à l'église. Non, Dieu vous connaît mieux que cela. Il vous invite au naturel. Même sous la loi, avant la révélation de Jésus-Christ, Dieu avait dit que les parents devaient enseigner ses voies à leurs enfants en tout temps. C'est le passage que nous avons vu. Et cela devait être pour eux tout un mode de vie, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. Cela devait être un processus continuel d'enseignement et de vie en Dieu par l'exemple. La maison, et non pas les organisations religieuses ou notre système d'église, était destiné à être le centre de la vie chrétienne. Votre maison, votre bureau, votre école sont le centre de votre vie chrétienne. Il est nécessaire que nous réorientions l'église pour remettre les choses dans une juste perspective. Oui, la seule chose compliquée de la loi était le système du temple et des sacrifices, et nous n'en avons plus besoin, gloire à Dieu. Ces éléments-là, aujourd'hui, nous n'en avons plus besoin. Jésus a pour toujours offert un sacrifice unique, entièrement suffisant, abolissant tous les rituels. Ton amour seul nous suffit, nous l'avons chanté. Ce que Dieu avait de tout temps prévu était un mode de vie et non une religion. Alors, on a vu Abraham, on a vu la loi, venons-en donc au Nouveau Testament. Comment Jésus a-t-il enseigné ? Le voyez-vous dire aux gens, venez m'écouter les dimanches matins à 10h. Nous avons également le mardi à 20h une réunion. Et si vous êtes sage, en bonus, le concert de la chorale. Pouvez-vous l'imaginer en train d'annoncer, nous allons acheter un terrain face au parc central de Jérusalem pour que nos bureaux soient situés le mieux possible. Et nous aurons notre local d'église à côté de notre quartier général. Nous ne lisons pas ça dans la Bible. Nous ne lisons pas non plus qu'il ait fait des projets pour une église de 60 000 membres, plus grande que l'église juive de l'époque. Jamais il n'a dit « organisons des réunions de prière pour voir si Dieu nous donne un terrain sur lequel bâtir notre église ». Dès le départ, la méthode d'enseignement de Jésus était révolutionnaire. Quand un jour, quelqu'un lui posa la question « Maître, où habites-tu ?» Il n'a pas répondu « Voici une plaquette au dos de laquelle tu auras toutes les indications nécessaires pour venir m'écouter à mon église tous les dimanches matins. » Non, il a tout simplement dit « Viens et vois. » Et puisqu'il n'avait pas de foyer permanent, les gens ont dû le suivre pendant 3 ans s'ils voulaient connaître la vie. Jusqu'au jour de sa mort, ceux qui attendaient qu'il rétablisse un quartier général fixe attendent toujours parce qu'il n'a jamais eu de domicile fixe où enseigner. Il n'avait pas de programme de réunion, pas d'études bibliques, de réunion de prière, de répétition de chorale, pas non plus de culte le dimanche matin où il faisait sonner les cloches et se tenait à la porte en disant « Bonjour, soyez les bienvenus ». Jésus était une personne très simple et naturelle qui vint vivre parmi les hommes et se faisant leur enseigner comment vivre. Comment a-t-il enseigné ? Eh bien, il enseignait à son lever. En marchant sur les routes de la Palestine, il enseignait. Quand il s'asseyait, les gens s'attroupaient autour de lui et il enseignait. C'est ainsi toute la journée, il vivait tout simplement, spontanément, naturellement. Quand il trouvait une personne, il vivait avec cette personne, il l'aimait. Quand il en trouvait 1 000, il vivait avec ces 1 000 personnes et il les aimait. « Suivez-moi, disait Jésus. Apprenez de moi, disait-il. Je suis. » Faites aux autres ce que Jésus a fait pour vous. Vivez et ne professez pas seulement. Mourez et ne professez pas seulement. Alors, nous disons, Ne regardez pas à moi, regardez à la Bible. Suivez la Bible. Et par là, nous disons en fait, j'ai essayé, ça n'a pas marché, voyons si toi tu peux faire mieux. Paul, lui, enseignait de la même manière que Jésus. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit, « Vous êtes devenus mes disciples et ceux de Christ. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Il n'a pas dit « Suivez mes enseignements », il a dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » La plupart de nos enseignements aujourd'hui visent à amener les gens à savoir ce que nous savons, plutôt que de devenir ce que nous sommes. Mais enseigner comme Jésus et comme Paul, c'est communiquer la vie, et pas seulement des concepts. Ils ont communiqué la vie afin que les gens deviennent comme eux. Paul disait aux Corinthiens, « Vous êtes des lettres de Christ, lues par tous les hommes. » Nous sommes une lettre de Dieu pour toutes les personnes que nous fréquentons. Qu'il est triste de voir qu'il a besoin d'une version moderne de la Bible qui s'appelle « parole vivante », alors que nous sommes appelés à être cette parole vivante, cette lettre vivante de Christ. Comment devons-nous donc enseigner ? Notre amour, notre joie, notre paix devraient pouvoir se lire par tout un chacun, de sorte qu'il puisse dire « Qu'avez-vous que je n'ai pas ?» Nous avons Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie, et quand ils le verront, ils viendront. Viens et vois. Je vous rassure, j'ai bientôt terminé. Je voudrais simplement prendre aussi l'exemple de Pierre, Paul et Jacques, pas le chanteur, les disciples. Aucun d'entre eux n'a jamais eu ce genre d'organisation que nous avons actuellement. Eux enseignaient partout où ils se trouvaient. Ils enseignaient le long des routes, dans les prisons, à chaque occasion qui se présentait. Ils baptisaient les gens à 4 heures du matin. L'heure n'était pas un problème pour eux. Ça n'avait aucune importance. Ils n'ont jamais attendu la réunion suivante. N'importe quand leur convenait très bien. Et n'importe où aussi. Dans la maison de quelqu'un, au milieu de la nuit, comme ce fut le cas pour le geôlier de Philippe. Au désert, comme pour l'eunuque éthiopien, c'était une vie et non un système religieux. Alors, je voudrais que ce soit clair, je ne cherche pas à abolir nos réunions, ni même l'école du dimanche. C'est encore nécessaire. Je n'essaye pas de prôner un transfert de notre religion du dimanche au reste de la semaine non plus. Ce que je suis en train de dire est quelque chose de plus radical que Jésus nous invite à vivre. Vivre par l'Esprit. Et vivre par l'Esprit, c'est être conduit non par un système religieux, mais par la présence de Dieu dans notre cœur. C'est un système incorporé de guidage permanent pour la vie entière. Et quand nous vivons cette vie-là, nous devenons des gens normaux. Je termine par un dernier exemple. Une des relations aussi les plus simples qui soient, c'était avant la chute, Adam et Ève. Alors vous pouvez me dire, oui, mais attends Jean-Simon, nous on est pécheurs, oui, mais on a Jésus. Adam et Ève avaient une relation hyper simple. Alors, imaginons encore une fois Dieu qui leur rend visite dans le jardin et qui leur dit, Adam, Ève, comment ça va ? Oh, bonjour Dieu, très très bien, et toi ? Bien, merci. Que fais-tu, Adam ? Eh bien, comme tu vois, je suis en train d'arroser les fraises. C'est un exemple. Hein. Ah bon ? Et elles poussent bien ? Magnifiquement, Père. Tu sais, on en a cueilli toute une corbeille et Ève en a fait de la confiture. C'est vrai ? Oui, et elle était délicieuse. Voilà comment il communiait avec Dieu. Ils avaient un partage avec lui au sujet des choses ordinaires de la vie, car il s'intéressait à tout ce qu'il faisait. Dieu continua à s'enquérir de leur bien-être. « Ève, comment ça va ?»« On ne peut mieux, Père. Ce jardin est splendide, la température est parfaite, tout est si beau. C'est vraiment agréable de vivre ici. » Voilà ce que nous avons fait de cette relation. Nous nous imaginons que, quand Dieu nous appelle par notre nom, on dit « Vite, Amy, va chercher les livres de chant et commençons. » Nous te bénissons, ô roi des rois. Ça, c'est le système religieux. Comment ça va, Père ? Beaucoup d'entre nous, nous ne réalisons pas que cela se passait ainsi dans le jardin. Nous n'associons Dieu qu'à un système religieux et non à une vie normale. C'était beaucoup plus simple que ça, plus naturel. Jésus a apporté à la terre le royaume de Dieu pour qu'il puisse se répandre sur toute la terre et restaurer notre relation avec Dieu, transformant la vie entière de l'humanité, mais en commençant par nous. Alors si nous ne vivons pas ces choses, si nous n'en profitons que le dimanche matin pendant 2 heures, eh bien on n'est pas dans le vrai. On manque la cible, on pêche. Dieu désire qu'hommes et femmes puissent naître dans le royaume afin qu'ils puissent vivre dans l'esprit 24 heures sur 24, jouissant continuellement avec lui de la relation qu'il nous offre, cette relation de qualité qu'il a voulu dès le commencement. Enfin, l'humanité allait pouvoir communier avec Dieu dans tous les aspects de la vie, exactement comme il l'avait prévu quand il avait créé la race humaine. Dieu nous invite à professer le dimanche matin la vie de communion que nous avons vécue le reste de la semaine. Amen.